Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous recevons pour la seconde fois Michel Kubler, prêtre assomptionniste et journaliste français. Michel Kubler a travaillé pendant 20 ans au quotidien catholique La Croix en tant que rédacteur en chef adjoint, du service religion, puis rédacteur en chef religieux durant 12 ans jusqu'en 2009. Fondateur et directeur du centre œcuménique assomptionniste Saint-Pierre-Saint-André de Bucarest de 2010 à 2017, recteur de la paroisse catholique francophone du Sacré-Cœur de 2011 à 2015, il est, depuis 2017, secrétaire général et procureur général de sa congrégation à Rome. Michel Kubler, bonsoir.
Bonsoir.
Pas d'erreur dans la présentation ?
C'est parfait, merci, c'est très gentil.
Bon, je suis ravi de vous retrouver, Michel Kubler. Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer par cet échange par votre actualité. Vous êtes en ce moment, non pas à Rome, mais à Iași. Pourquoi êtes-vous à Iași ?
Oui, c'est toujours un bonheur de revenir en Roumanie. Je dis toujours, ce n'est jamais que la deuxième fois, j'allais dire malheureusement, que je peux revenir dans ce pays qui m'est cher, vous le savez. La première fois, je crois bien que c'était en 2023, les assomptionnistes fêtaient leur centenaire de leur présence en Roumanie, et donc j'avais été invité bien sûr à participer à ces festivités qui étaient très, très sympathiques, et là je reviens pour un rendez-vous au titre de ma congrégation, donc les assomptionnistes, comme vous l'avez signalé, parce que en tant que secrétaire général, je dois organiser pour une bonne part et bien sûr participer à deux fois par an à une, je veux dire, un peu une rencontre au sommet de notre congrégation. Toutes les congrégations religieuses le font, hein. C'est pas spécifique pour les assomptionnistes, mais on a notre propre manière de le faire. C'est-à-dire, il y a à Rome en permanence l'équipe internationale de la congrégation, c'est-à-dire le supérieur général, le big boss, si vous voulez, qui est depuis 2023 un religieux congolais, mais qui a vécu aussi au Mexique, qui a vécu aux Philippines. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu un parcours assez impressionnant. Le père Goak, notre supérieur général, et qui est entouré de 4 assistants, du secrétaire, votre serviteur, et aussi d'un économe général. Donc, cette équipe-là, qui est l'équipe permanente à Rome, on appelle ça la curie, non pas du Vatican, mais la curie de notre congrégation, se retrouve deux fois par an avec l'ensemble des religieux qui sont responsables de l'économie du monde. On appelle ça les provinciaux, les supérieurs des provinces, quoi, hein, et qui sont 7 également. Ça fait une quinzaine de personnes. On fait 2 grands conseils plénières par an. Un en décembre à Rome, c'est eux qui viennent, et un autre en juin, puis successivement dans tel ou tel pays. On était l'année dernière à Buenos Aires en Argentine, on sera l'année prochaine à Madagascar, et donc cette année nous sommes en Roumanie et à Iași, où nous avons fondé, maintenant il y a maintenant 2 ans, une nouvelle maison. On n'avait jamais été présent comme assomptionniste à Iași, et c'est le cas maintenant, notamment à l'appel de l'évêque de Iași, pour s'occuper, y compris au plan chrétien, pastoral, de ces milliers d'étudiants francophones qui viennent à Iași, vous le savez bien, comme il y en a aussi à Cluj, pour étudier la médecine, la pharmacie, dentaire, etc.
Mmh. Alors,
Et donc nous sommes là pour une dizaine de jours de réunion, suivi d'une autre réunion plus restreinte, je vous épargne le détail, et à la suite de ça, avec le supérieur général, mais seulement lui et moi, nous allons continuer tout un parcours de ce qu'on appelle des visites canoniques. C'est encore une autre chose. Le supérieur général doit, pendant son mandat, visiter chacune des communautés de la congrégation de par le monde. Nous sommes présents dans 33 pays, donc ça va, il y a de quoi faire. Et là, je vais l'accompagner dans l'autre communauté que nous avons en Roumanie, celle que j'avais, entre guillemets, fondée avec quelques confrères à Bucarest à partir de 2010, pardon, comme vous l'avez rappelé. Et puis ensuite, donc je serai pour 3-4 jours à Bucarest la semaine prochaine. Et ensuite, nous irons à Plovdiv en Bulgarie, à Istanbul en Turquie, etc.
D'accord. Et ça, c'est chaque année ?
Non. Le supérieur général doit le faire pour chaque communauté une fois pendant les 6 ans de son mandat.
Pardon.
Mais il doit rencontrer personnellement chaque religieux, faire le point. Où est-ce que tu en es ? Est-ce que tu es heureux ? Est-ce que ton travail te convient ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Etc. Comment tu vois l'église, le monde, la congrégation ? Enfin, toutes ces choses-là, quoi.
D'accord.
Panorama.
Et alors précisément à Bucarest, vous allez donner une conférence, un mercredi je crois, hein, au Centre œcuménique assomptionniste Saint-Pierre-Saint-André.
Oui, à 19h mercredi prochain, je serai très heureux bien sûr de retrouver, si j'ose dire, ma maison, puisque j'ai contribué à l'ouvrir ou à la réouvrir en 2010 avec le père Duchandika, qui est mon successeur comme directeur du centre maintenant. Et donc, on s'est mis d'accord avec le père Lucien pour conclure l'année des conférences. Vous savez, il y a toujours un cycle comme ça chaque année de conférences grand public qui sont aussi diffusées en ligne d'ailleurs. Hein. C'est bien que vos auditeurs le sachent, ils peuvent suivre ça en ligne. Donc, je ferai cette conférence en français parce que mon pauvre roumain est parti en même temps que j'apprenais l'italien. Je me suis rempli d'italien en arrivant à Rome et je me suis vidé du peu de roumain que j'avais. Donc, à part les mots de la vie courante, je ne sais plus malheureusement entretenir une conversation en roumain. J'en suis désolé. D'accord. Donc, je ferai la conférence en français. Elle sera traduite en roumain en direct. Et tout ça, c'est possible d'y aller en présentiel, bien sûr, Intraria Christiantel, juste à côté du consulat de France. Je pense que beaucoup de nos auditeurs connaissent l'endroit, à côté de l'ancien lycée français.
Tout à fait. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire, on peut y aller directement.
Ah non, on y va comme ça, oui, tout à fait. Très bien. Et il y a un temps d'échange après, etc. On pourra se rencontrer, on pourra discuter. Et puis, c'est possible aussi de la suivre à distance, en ligne. Là, il faut aller sur le site du Centre Pierre Saint-André, Centro Petrucci André, et vous aurez le lien pour suivre la conférence. Alors, le thème, peut-être la conférence, on peut le signaler,
oui,
Laurent.
Oui, si tout à fait, allez-y.
Parce que j'ai proposé comme sujet, venant de Rome et ayant, vous l'avez rappelé, un passé un peu chargé de journaliste, j'ai proposé de partager avec mes amis de Bucarest, français comme roumains bien sûr, catholiques comme orthodoxes ou protestants, ce qui s'est passé à Rome depuis un an, le changement de pontificat, dire quelques mots peut-être de la fin du pontificat du pape François, non seulement ses modalités un peu tristes, hein, sa maladie, il a quand même baissé, et puis son décès bien sûr, hein, le lundi de Pâques l'année dernière. Mais aussi un peu la fin de son pontificat, dans quelle ambiance ça s'est passé, pour expliquer en partie en tout cas le choix du successeur qui lui a été donné par les cardinaux en conclave le 8 mai de l'année dernière. Et donc ma conférence, ce sera de faire un peu une évaluation de cette année de changement de pontificat, quelle continuité, quel changement entre les personnes, entre les styles, mais aussi la pensée, voire la gouvernance de l'Église catholique.
Alors précisément, en parlant de ce changement, vous m'avez dit, en préparant cet entretien, que vous aviez commenté pour France Télévisions, France 2 plus exactement, l'intronisation du pape Léon XIV le 18 mai de l'année dernière, 2025, sur la place Saint-Pierre du Vatican, 10 jours après donc son élection, le 8 mai. Racontez-nous un petit peu cette expérience.
Alors vous êtes, fait, si vous permettez, j'ai même fait mieux que ça, ou plus que ça en fait, hein. C'est-à-dire que France 2, la correspondante de France 2 à Rome, Raphaël Shapira, m'avait demandé depuis longtemps, depuis son arrivée pratiquement, parce que elle n'est pas très familière des choses de l'Église, n'étant pas elle-même d'origine chrétienne ou catholique, et autant elle était passionnée par le fait de devenir correspondante de France 2 pour l'Italie, au plan politique, économique, culturel, tout ce que vous voulez, autant l'aspect spécifiquement religieux et bien sûr du Vatican, ça l'angoissait un petit peu parce qu'elle n'avait pas forcément les codes, les clés pour décrypter tout ça. Et sa grande hantise, évidemment, et qui s'est vérifiée, comme la probabilité était quand même assez réelle, c'était le conclave, quoi. Je n'y connais rien aux choses de l'Église. Qu'est-ce que je fais si le pape meurt et qu'il faut lui élire un successeur, quoi? Et donc, elle est venue me voir en me disant, il faut me dire, parce que moi, j'y connais rien, pour m'expliquer d'où ça vient, où ça va, comment ça marche, etc. Alors, je lui ai expliqué personnellement, je lui ai fait des petites fiches, et puis on se voyait régulièrement, je lui parlais un peu des rumeurs, des spéculations sur la succession de François, du moment où. Et puis, c'était convenu que le jour où François meurt, si je suis à Rome et si j'ai quelques minutes, je serai à sa disposition pour commenter un peu le choc du décès du pape, ce qui s'est produit effectivement donc le lundi de Pâques l'année dernière. J'étais sur la place Saint-Pierre dès le jour de la mort du pape, pour commenter en direct un peu ce qui se passait, l'émotion bien sûr qui était palpable, là, à portée de main. Et puis, bien sûr, comment allait se passer l'interrègne, un petit peu la préparation du conclave, matériellement, mais aussi un petit peu psychologiquement, pour ne pas dire spirituellement. Ensuite, j'ai repris l'appel pour l'entrée en conclave, et bien sûr, le lendemain, pour la fumée blanche. Et donc, c'était le moment le plus saisissant quand même. Bon, il y a eu ensuite, bien sûr, l'ouverture du pontificat l'inauguration du pontificat de Léon XIV, comme vous l'avez rappelé, mais le moment le plus émouvant, c'est très clairement la fumée blanche. Quoi. Donc, nous étions l'équipe de France 2 avec les grandes chaînes de télévision internationales. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce dispositif à l'écran, peut-être. C'est un grand échafaudage qui est devant la place Saint-Pierre, pas sur la place elle-même, mais devant la place Saint-Pierre, qu'on appelle la place Pie XII. Et il y a là toutes les chaînes. À droite, à côté de moi, il y avait Al Jazeera. À gauche, il y avait les Japonais. C'était très impressionnant. Et on était en hauteur, on avait une vue plongeante sur la place Saint-Pierre et on était, si j'ose dire, vis-à-vis du balcon de la loggia des bénédictions à laquelle apparaîtrait d'abord le cardinal Mamberti, cardinal français, à qui il revenait cette fois-ci d'annoncer le fameux Habemus Papam. Et puis ensuite, bien sûr, voir apparaître le nouvel évêque de Rome, qu'on appelle le pape. C'est très émouvant, mais c'est surtout très stressant aussi comme journaliste. Vous pouvez imaginer, Laurent.
Vous êtes resté en antenne combien de temps?
Les 115 ou 120 cardinaux susceptibles d'être élus, qui ont une chance non nulle d'être élus, lequel allait sortir de la boîte.
Vous êtes resté à l'antenne, excusez-moi. Je vous coupe, Michel, excusez-moi. Vous êtes resté à l'antenne combien de temps? D'affilée.
Alors c'était compliqué parce que vous avez rappelé que c'était le 8 mai, et le 8 mai en France, c'est jour férié, et à l'instant même où les cardinaux étaient le pape, la France fêtait le 8 mai, sur quel lieu de champ de bataille, ou je ne sais plus à quel endroit il était, il y avait la Marseillaise, il y avait le chant des partisans, et tout ça, et nous on pierrefait la patience, on n'a pas arrivé quoi.
Oui,
et donc,
oui.
Mais par chance quand même. Par sens, le service public de télévision a passé l'antenne à Rome dès que les manifestations du 8 mai en France étaient terminées, donc juste à temps pour qu'on puisse accueillir le nouveau pape et commencer les premiers décryptages. C'est donc un Américain pour la première fois dans l'histoire, c'est donc cet homme qui a vécu une bonne partie de sa vie au Pérou, c'est donc l'ancien responsable d'une congrégation d'un grand ordre religieux international, enfin bon, ces choses-là. Mmh. Grâce à Dieu, si je puis dire, et aussi parce qu'on avait travaillé un petit peu, on n'a pas été pris de court par le fait que ce soit ce pape-là, parce qu'il faisait partie quand même des 5 ou 6, je dirais, cardinaux dont on parlait quand même pas mal à Rome, comme susceptibles d'être élus. Mmh.
Je sais, Michel Kubler, que vous appréciez, vous avez beaucoup apprécié le pape François. Pour vous, qu'est-ce qu'il a laissé
Je pense que... Je veux pas avoir de grandes phrases définitives comme ça, sentencieuses, mais dans l'état actuel des choses, il me semble que la manière dont le pape François a investi la fonction pontificale, la charge pontificale, a créé quelque chose d'irréversible. Je pense que on ne peut plus être pape après François comme on l'était avant. Alors jusqu'à quel point, c'est à vérifier, c'est à voir, hein, et le choix de Léon XIV, sur lequel on pourra revenir si vous voulez, est intéressant parce qu'il a un profil, un style complètement différent de François, mais sur le fond, je commence à dévoiler un petit peu ma conférence de mercredi prochain, je ne veux pas que j'en dise trop, sinon plus personne ne viendra. Mais autant le style de Léon est très différent de celui de François, mais radicalement différent, autant sur le fond, il y a beaucoup de continuité.
Quand vous parlez
mais là,
du
je
style,
vous parle surtout de...
Oui, oui. Mais quand vous parlez du style, oui, c'est-à-dire, comment est-il différent?
Eh bien, François était un homme très, très vigoureux, très rentre-dedans, si vous me passez l'expression. Il prenait des décisions un peu, il avait un langage très direct. Léon est un homme beaucoup plus discret, beaucoup plus en retrait, qui prend beaucoup de temps pour prendre position, pour réfléchir et encore plus pour décider. Au point que pendant les 6 premiers mois du pontificat, les gens se disaient, mais est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Qu'est-ce qu'il fait, ce pape-là? Il prend pas de décision, il procède pas à des nominations, il ne publie pas des grands documents, etc. Il prenait son temps pour préparer son affaire. Et là, maintenant, il commence à avancer assez régulièrement. Bon, c'est son style à lui. Mmh. Alors que François, c'était l'emporte-pièce, quoi. Hein, c'était, et donc, quitte à être quelquefois un peu violent, hein, on peut dire ça maintenant, un peu autoritaire, un peu cassant, hein, quelquefois. Surtout sur la fin avec l'âge, la maladie, la faiblesse, la fin du pontificat de François. Au niveau de la forme, de la gouvernance, a été un peu difficile à Rome, hein, pour les gens qui devaient travailler avec lui au plus près, au Vatican, à la curie romaine en particulier. Mmh. Mais là où je veux dire que François, par sa manière d'exercer la charge, a créé quelque chose d'irréversible, c'est que je crois qu'il a libéré une bonne partie du carcan qui pouvait peser. Je ne veux pas dire par là que ses prédécesseurs à la papauté étaient des incapables ou des gens coincés. Loin de moi, c'est dire, j'ai connu Jean-Paul II, j'ai connu Benoît XVI. Je peux vous dire que c'était des grandes figures. Mais là, je parle de la manière d'être pape, et je pense que François a beaucoup simplifié les choses, c'est une grande simplicité, je dirais une simplicité évangélique, si vous me passez l'expression, et qui fait que c'était un homme en vérité. Moi, j'ai eu l'expérience de rencontrer personnellement, je vous l'ai dit, et Jean-Paul II et Benoît XVI. Ben, je veux dire, quand vous vous retrouviez après ça devant François, il se passait quelque chose, quoi. Juste une anecdote, si vous me permettez, c'est peut-être trivial, mais quand vous rencontriez Jean-Paul II, je l'ai rencontré quand même un certain nombre de fois, quand c'était par exemple dans un groupe, ben, vous passiez après quelqu'un et avant quelqu'un d'autre, hein, vous êtes dans une file et vous saluez, vous échangez quelques mots, etc. Bon. Jean-Paul II, quand il vous recevait, regardez déjà derrière vous qui est-ce qui allait se pointer, pour ne pas être pris de court, pour ne pas être... J'ai vu ça avec des chefs d'État aussi, hein, qui font la même chose. C'était le côté un peu politique de Jean-Paul II, ce qui n'est pas une critique de ma part, hein, c'est pas négatif quand je dis ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il était dans le calcul, en train de se dire « Oh là là, il faut que je fasse attention parce que je vais peut-être être surpris après, etc. » Bon, donc il était avec vous, mais en même temps, il était déjà derrière, après, quoi. Hein. François, vous aviez le sentiment, j'ai vécu ça avec peut-être
Benoît XVI, pardon, de ma vie, excusez-moi, hein. Avec Benoît XVI, c'était comment?
Benoît XVI, lui, il était plus à distance, hein. il était fraternel, très simple, très humble, mais pas d'impression très forte particulièrement. Je l'ai peu rencontré comme pape, parce que c'est le moment où après je suis parti de la Croix, donc j'ai eu peu d'occasion de le rencontrer personnellement, mais j'avais rencontré plusieurs fois le cardinal Ratzinger, et qui n'avait pas changé considérablement de non-pape dans sa nature, dans sa manière de se rapporter aux gens. Hein. Donc quelqu'un de très à l'aise quand vous étiez en tête-à-tête, mais dans un cadre un peu officiel, il était un peu figé, je dirais, quoi, d'une certaine façon. Bon, c'était sa façon à lui.
Est-ce que vous diriez...
François, ce qui était vraiment très impressionnant, mais qui m'a bouleversé, moi, franchement, et je ne suis pas le seul à le dire, hein, c'est que quand vous étiez face à lui, même quand c'était pour un échange de 45 secondes, vous aviez le sentiment très clair, très évident, qu'à cet instant-là, vous étiez au monde la seule personne qui existait pour lui. Ça c'est quand même très fort. Je veux dire, ça se calcule pas. Ça c'est pas un ressort de je sais pas de comédien ou de posture ou que sais-je quoi. Ça ne se décide pas. On est comme ça. Vous êtes pleinement disponible à la personne et rien ne compte en dehors de cette personne unique au monde que vous avez en face de vous à cet instant précis là. Et ça, excusez-moi, ça vous marque quoi. Hein. Vous avez non seulement le sentiment d'avoir rencontré quelqu'un, mais d'avoir été rencontré par lui.
Et est-ce que vous avez rencontré Léon XIV?
Alors Léon XIV, je lui ai serré la louche, si vous me passez l'expression, dès après son élection, parce que étant journaliste accrédité pour le changement de pontificat pour France Télévisions, comme on l'a dit, j'étais invité évidemment à l'audience que tout nouveau pape accorde aux médias qui ont couvert son élection. On était quand même 4000 hein, dans la grande salle de Paul VI, et donc... Par contre, je m'étais arrangé, parce que je connais un petit peu les astuces au Vatican dans ce cas-là, je m'étais arrangé pour être sûr de son parcours quand il sortirait, et donc je lui ai serré la louche, on a échangé un regard que j'ai considéré comme chaleureux, mais bon, qui était comme très fugace. Hein, mais j'ai pas eu l'occasion encore de le rencontrer plus personnellement depuis.
Est-ce que vous diriez que, donc on a parlé là de la forme, mais dans le fond, il y a, vous l'avez déjà dit quelque part, qu'il y a une continuité aussi entre François et Léon XIV, en ce sens qu'il y a peut-être une ouverture vis-à-vis de certaines thématiques. Là, aujourd'hui, Léon XIV a rendu notamment public récemment une encyclique où il critique habilement les excès de la technologisation du monde. Bon, ça, c'est une thématique, mais quelque part, c'est ce que vous voulez dire aussi, qu'il y a un regard très, très humaniste, très... Et particulièrement ouvert par rapport au pape précédent qui distingue François et Léon.
Alors, dans toute action d'un pape, je crois qu'il faut toujours distinguer deux niveaux, non pas opposés, mais complémentaires. Médiatiquement, les journalistes comme vous et moi, on regarde d'abord qu'est-ce que le pape va dire sur les questions de société. Est-ce qu'il va être pour ou contre ceci, cela, l'homosexualité, les divorcés remariés, la paix dans le monde, l'intelligence artificielle, enfin, toutes ces choses-là, des questions de société qui préoccupent l'homme, évidemment, et qui importent à l'Église, ça c'est clair. Moyennant quoi, l'hypothèse que je fais, et que je crois assez pertinente, c'est que quand les cardinaux se réunissent pour élire un pape, c'est pas à ça qu'ils pensent d'abord, c'est aux questions internes à l'Église. on a un problème à tel niveau de la vie de l'Église, il faut absolument trouver une solution, c'est d'urgence, c'est grave, etc. Et on va choisir le nouvel évêque de Rome en fonction de ça. Là, Léon XIV, il a clairement été élu, pas pour des questions de société, pas plus que ses prédécesseurs, je pense pouvoir le dire, mais pour des questions internes à l'Église, et en particulier pour faire entrer dans la pratique la grande réforme qu'a entreprise François, qui n'a pas réussi suffisamment, où il n'a pas eu le temps à mettre en route, ce qu'on appelle la synodalité, c'est le fait que l'Église fonctionne autrement dans sa manière d'être animée, d'être gouvernée, d'être dirigée. Autrement dit, que c'est plus Rome qui a tout le pouvoir et les pays, la base un peu qui suit comme elle peut, mais les décisions se prennent ensemble. François a posé les jalons, les principes, c'est structuré, c'est cohérent, ça tient la route, mais il n'a pas réussi à le faire marcher. Léon s'emploie maintenant à faire marcher ça. Il a mis en place, il commence à mettre en place des dispositifs pour que ça soit concrétisé, et je pense que ça va fonctionner bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles je disais qu'il y a une espèce d'effet cliquet avec le pontificat de François qui fait qu'on ne peut plus revenir en arrière, vous voyez. C'est que Léon, avec un style radicalement différent de François, ben, il continue dans ce sens-là parce qu'il a compris qu'il n'y avait pas d'avenir pour l'Église en dehors de cela. Ah, les questions de société, je ne dis pas que c'est second, mais on s'en occupe.
Donc c'était surtout dans un autre niveau. D'accord, donc c'était surtout dans ce sens-là que vous disiez qu'on ne pouvait pas revenir en arrière, mais... Toutefois, revenant sur les questions de société, même si c'est encore un petit peu tôt, est-ce que vous sentez une parce qu'on voilà, François a été, on se rappelle de lui pour une certaine ouverture par rapport à plusieurs questions de société. Est-ce que vous sentez qu'on est dans la continuité de ça avec Léon XIV?
Oui, avec la sensibilité aux questions de société globalement est présente très nettement chez Léon XIV comme elle l'était chez François. Peut-être que les thématiques ne sont pas exactement les mêmes, parce que chacun a son histoire, chacun a sa sensibilité. Léon XIV, on l'oublie quelquefois, est un matheux hein, de formation et de formation scientifique, et il est aussi juriste. Il a ce double bagage dans son génétiquement, si j'ose dire, dans sa formation, dans son parcours personnel. Il est à la fois scientifique et juriste. Ça veut dire que, alors que... le pape François, lui, bon, même s'il était technicien chimiste, au départ, il n'avait pas cette configuration intellectuelle, si vous voulez, ce rapport au monde qui est plus spécifiquement celui de Léon. Et donc, Léon XIV a exactement la même préoccupation, je dirais même une hantise, de ce que devient l'homme dans le monde d'aujourd'hui et dont l'Église doit se soucier, pas seulement pour lui annoncer l'Évangile au sens où on lui balancerait un message comme ça, mais au sens où on accompagne l'homme dans ses difficultés et éventuellement on lui propose, s'il ça l'intéresse, s'il le veut bien, l'éclairage de l'Évangile et la lumière que l'Église, avec sa sagesse, son histoire et son message à elle, peut lui proposer pour l'aider à grandir et à s'en sortir. Vous vous souvenez peut-être que le 8 mai 2025, dès le soir de son élection, son premier message, urbi et orbi, comme on dit, hein, à la ville et au monde, Léon XIV a parlé de l'intelligence artificielle. C'est pas tout à fait banal quand même qu'un pape, dans ses premiers mots, choisisse de parler d'une thématique d'aussi pointue, quoi, hein. Et il a expliqué clairement qu'il avait choisi son nom de pape. Vous savez que chaque nouveau pape choisit un nom, ou plus exactement un prénom, et après on met derrière le numéro pour dire dans quel ordre il se situe par rapport à ce nom. Donc il est le 14e pape à porter le nom de Léon, mais le précédent, Léon XIII, s'était illustré à la fin du 19e siècle comme étant le premier pape qui s'est intéressé aux questions sociales. La question du monde ouvrier, la question de la révolution industrielle, qu'est-ce que devient l'homme là-dedans, les injustices, les problèmes de travail des enfants, ben, toutes ces choses-là, Léon XIII avait écrit une encyclique fameuse qui s'appelle « Rerum novarum », des choses nouvelles, le monde tel qu'il évolue avec la révolution industrielle. Léon XIV, quand il a été élu, lui, donc en 2025, a dit « Aujourd'hui, la question sociale la plus importante, celle où il se joue des choses pour l'avenir de l'humanité et pour l'avenir de l'homme, de l'être humain, qui peut être affecté par ça, c'est l'intelligence artificielle et je vais m'en préoccuper. » Et il a fait, comme vous l'avez rappelé, cette première encyclique Magnifica Humanitas, la magnifique humanité, sur ce sujet-là. François, je ne dis pas que ça lui est égal, l'intelligence artificielle, mais ça commençait à prendre de l'ampleur. Peut-être à un moment où lui n'avait plus l'énergie pour s'en occuper, ou bien il avait peut-être pris d'autres priorités au cours de son pontificat pour s'investir suffisamment dans ce domaine-là. C'est normal. appeler à une nouvelle génération à de nouvelles préoccupations parce que le monde évolue et les questions ne se posent pas de la même manière selon les moments.
Quand je vous écoute, Michel Kubler, je suis en train de me dire que, et vous m'excuserez l'expression, peut-être que l'Église l'a beaucoup à jouer en ce sens que, on le dit, en tout cas, et on le sent, je pense, qu'il y a un manque de leadership politique et de, comment dirais-je, oui, de loyauté, d'intégrité de plusieurs des grands leaders du monde actuel. Et peut-être que là, il y a précisément... voilà, une non pas une place à prendre, mais une place
à occuper,
voilà,
peut-être.
Un espace,
oui,
à occuper, merci.
Oui, oui, je vous rejoins assez volontiers, Laurent. D'autant plus que l'Église, dans ce domaine-là, en tout cas, ne peut pas être soupçonnée d'avoir une approche partisane ou une démarche intéressée, ne recherche aucun pouvoir. Autant quand il s'agit du rapport avec l'islam ou d'autres choses comme ça, on peut dire « oui, oui, c'est parce qu'elle se sent menacée », etc. Là, non, sur ces thématiques-là, non. L'Église, elle est au service de l'humanité, si vous voulez. Ce qui se passe avec Magnifica Humanitas, donc cette encyclique de Léon XIV sur l'intelligence artificielle et ses enjeux sur le devenir de l'humanité, j'ai été frappé de voir son impact dans bien au-delà de l'Église. Et des gens qui sont engagés dans une réflexion, voire au niveau de entrepreneurial dans ces domaines-là, ont salué cette encyclique alors qu'ils n'avaient ni foi ni loi. Ces gens-là, je veux dire, c'est des parfaits mécréants, et bon, très bien. Mais qu'ils ont salué la démarche du pape en disant c'est la première fois qu'on a une approche aussi claire, pédagogique, mais surtout lucide, courageuse pour désigner les questions graves et les enjeux que posent, non pas pour tout condamner en vrai, comme ça, c'est pas là du tout l'approche de l'Église et de Léon XIV en particulier sur ce sujet, mais pour éclairer les gens sur ce qui se joue là, hein, pour ne pas être... parce que c'est l'humanité qui est en jeu. Qu'est-ce que c'est qu'être homme aujourd'hui? Eh bien, la manière dont on définit l'homme pourrait être affectée par l'intelligence artificielle si on y prête garde. Et ça me rappelle une encyclique précédente, vous vouliez un rapprochement avec le pape François, le voilà. L'encyclique que le pape François avait consacrée aux questions d'environnement, Laudato Si, a eu une répercussion mondiale dans tous les milieux, et particulièrement dans les milieux préoccupés d'agir pour le service de l'environnement et pour le développement durable et toutes ces questions. Et de la même manière, à l'époque, Laudato Si du pape François avait été salué comme la synthèse la plus lucide et la plus courageuse sur les enjeux de l'environnement, et la plus complète aussi, la plus juste, quoi, y compris la mieux informée au niveau scientifique, si je puis dire, sans être une thèse de science, évidemment. Mais pour dire que pour un grand public éclairé, ça apportait l'ensemble des données du problème, ça présentait des risques, des chances, et ça donnait des pistes pour avancer. Là, c'est la même chose avec Magnificat Humanitas, et donc l'Église est pleinement dans son rôle, avec François avant, comme avec Léon maintenant, pour éclairer l'humanité face aux questions qui se posent à l'ensemble de tous les hommes. Pourquoi est-ce que l'Église ne dirait rien? Et on voit que lorsqu'elle dit des choses après avoir bossé un petit peu quand même, hein, ça se fait pas du jour au lendemain une encyclique. Le pape ne l'écrit pas tout seul de sa blanche main dans la solitude de son bureau, il fait travailler des experts, il crée des groupes de recherche, de travail, etc. Donc c'est tout un processus qui prend des mois, hein, pour écrire une encyclique. Mais ça aboutit à quelque chose qu'il s'approprie, où il apporte sa touche personnelle, évidemment, et qui ensuite produit un effet et surtout rend service.
Michel Kubler, quel est aujourd'hui votre rapport à la foi?
Ouh là là! Mon Dieu! C'est une question très personnelle, je dirais presque intime, mais bon, je n'ai pas de raison de ne pas y répondre. Il y aurait beaucoup de manières d'y répondre. Peut-être que je vais en choisir une qui me paraît peut-être la plus pertinente, comme ça spontanément, hein, par rapport à votre question. Tout le monde me dit que je ne sais pas mon âge, mais je l'ai quand même. Donc je vous le dirai pas, mais ce que je peux vous dire, et vous ferez les déductions que vous voudrez, c'est que je vais fêter, entre guillemets, cette année, là, en 2026, mes 50 ans de vie religieuse, c'est-à-dire d'engagement religieux dans la congrégation des Augustins de l'Assomption, autrement dit les Assomptionnistes. Avant, on disait toujours Assomptionniste parce que c'est plus court. Maintenant, on dit Augustin de l'Assomption parce que le pape aussi est Augustin. Donc, on est de la même famille que le pape. C'est très chic. Même si c'est pas la même organisation. Enfin, c'est une parenthèse. Donc, il y a 50 ans, c'était au mois de décembre. Donc, j'y suis pas encore tout à fait, mais c'est quand même l'année anniversaire. Je faisais, mais pour la première fois, mes vœux, je prononçais les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance au sein de la congrégation des Assomptionnistes. Et bon, 50 ans après, j'y suis toujours par la grâce de Dieu. Mais ma foi, si vous voulez, elle tient dans cette expérience un peu fondatrice pour moi. Alors que bon, j'avais la foi dans mon enfance. Je suis originaire d'une famille très, très croyante, très pratiquante, en Alsace, terre chrétienne, s'il en est, bon, tout ce qu'on veut. Mais je me suis approprié ça, là, au moment d'entrer dans la vie religieuse, à l'époque où j'avais, on va dire, une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que j'ai trouvé là le chemin, la manière pour moi de suivre le Christ, parce que le Christ pour moi c'est la référence de ma vie, c'est ce qui structure mon existence dans une relation personnelle et pas simplement dans une adhésion à un message entre guillemets un peu abstrait, c'est existentiel, je veux dire, j'ai une relation quotidienne, personnelle, j'allais dire permanente, mon Dieu, si ça pouvait être vrai, avec Jésus. Mais il fallait trouver la manière de la mettre en forme, quoi, hein, de la vivre, et la manière que moi j'ai trouvé qui me paraissait la meilleure pour moi, je ne veux pas une règle absolue évidemment, ça a été de vivre avec d'autres personnes qui avaient fait le même choix, avec une règle qui structure un peu notre existence, et à travers ces trois vœux qui sont eux aussi structurants, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, c'est-à-dire de rapport à l'amour, à la pouvoir et au pouvoir, quoi, hein, qui sont quand même un peu le trépied de toute vie humaine, quoi qu'on en fasse, quelque chose. Et donc mon bonheur a été là-dedans. Je ne vous dis pas que ça a été un long fleuve tranquille de 50 ans, mais mon bonheur profond qui fait que je suis heureux chaque matin de poursuivre cette voie, il est vraiment dans ce choix.
Merci Michel Kubler d'avoir répondu à cette question un peu intime, c'est vrai, vous l'avez, vous l'avez dit, vous avez raison. Alors ça me permet de faire le lien avec un livre que j'ai beaucoup apprécié, Petit parcours de foi, que vous avez publié chez Bayard en 2014. Alors pour ceux qui nous voient et qui nous écoutent et qui nous voient également, ce livre a été traduit, dont je le montre à la caméra, en roumain, Mic îndreptar de credință, aux éditions Humanitas. Alors, je suppose, je ne sais pas, mais on peut se le procurer éventuellement dans les librairies roumaines et il est, on peut le commander également à la librairie française Kiralina de Bucarest. Voilà, j'avais envie de l'indiquer parce que...
Juste à côté du centre Saint-Pierre-Saint-André.
Tout à fait. C'est un recueil qui m'a beaucoup plu, très intéressant et notamment très utile pour celles et ceux qui seraient peu au fait de ce que signifie un parcours de foi. Aujourd'hui, quand vous consultez peut-être ce livre, vous en êtes, j'imagine, toujours content. Vous dites qu'il y aurait quelques actualisations à faire.
Oui, sans doute. En fait, il faut le resituer dans son contexte. Ce livre est né à Bucarest. Je ne sais pas si vous le savez, Laurent.
Tout à fait. Oui.
C'était le pape Benoît XVI qu'on évoquait tout à l'heure avait décrété, entre guillemets, non, attendez, c'était Benoît XVI ou c'était déjà... Oui, c'était Benoît XVI. Une année de la foi. Dans toute l'Église, il encourageait la réflexion sur qu'est-ce que c'est que croire, quel est le contenu de notre foi, comment on la vit, etc. Et je m'étais dit, tiens, à l'échelle de la paroisse dont j'avais la charge à l'époque, la paroisse francophone du Sacré-Cœur, à Bucarest, et du centre Saint-Pierre-Saint-André que j'animais, je me disais, tiens, je vais peut-être faire un cycle de conférences sur le credo. Qu'est-ce que les chrétiens croient? Ben, c'est codifié dans ce texte qu'on récite tous les dimanches à la messe, hein. Nous, les catholiques, en tout cas, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, en Jésus-Christ, son Fils, etc. Je prends chaque article et puis je dis un peu qu'est-ce que ça veut dire, quel est le contenu de cet article de foi. Et une fois que j'ai fini ce cycle de conférences, j'ai remisé le texte. Bon, il y a eu un petit succès de fréquentation, les gens qui venaient pour ça. Après, j'ai rangé ça dans une chemise et dans un tiroir, très bien. Mais ça s'est su que j'avais fait ce cycle de conférences et mes amis de Bayard à Paris, où j'avais travaillé pour La Croix, comme on l'a dit. Mais Bayard a aussi une maison d'édition. Et donc, ils m'ont dit, mais on pourrait faire un livre avec tes conférences, là. Je dis, vous croyez vraiment? Enfin, je n'étais pas très sûr. Et donc, ils ont pris ça, ils l'ont mis en forme. J'ai un peu relu, j'ai un petit peu rééquilibré les choses ou corrigé des trucs. Et ça a fait ce petit parcours de foi dont j'ai ensuite été très honoré, je peux le dire en toute simplicité, que Humanitas, qui est une grande maison que je respecte beaucoup dans la vie culturelle roumaine, ait décidé de le traduire en roumain. J'étais très fier de ça. Donc voilà, alors j'y suis pas revenu depuis, sincèrement, parce que pour moi je suis passé à autre chose, et c'était quand même assez contextuel, assez circonstanciel, si vous voulez, conjoncturel, si on veut. Donc, mais ça touche quand même au cœur de la foi, et on m'a dit qu'il y avait du service, par exemple, pour la formation chrétienne des adultes, ce qu'on appelle des catéchumènes. Vous savez, il y a en France ce grand phénomène d'adultes qui demandent à devenir chrétiens. Eh bien, je sais que dans certains endroits, on se sert de mon livre pour leur formation. Tu veux savoir ce que croient les chrétiens? Ben, tu prends ce petit livre-là, puis on en parle ensemble.
Tout à fait, toujours d'actualité. Alors, on a encore quelques minutes, Michel Kubler. Parlez-nous de Rome. Comment vous l'aimez?
Mon Dieu, vous voulez que je parle de Rome en quelques minutes? Il faudrait que ça. Non, dites-moi, sous quel angle vous souhaitez qu'on en parle?
Tout simplement, comment vous la vivez au quotidien et ce que vous y appréciez, vous?
Ah, un grand bonheur, Laurent, un grand bonheur. Ça fait 9 ans maintenant que je vis à Rome. Je ne vous dirai pas que je n'ai pas envie d'en partir parce que, après mes années roumaines et avec ces années romaines, ça fait quand même maintenant une quinzaine d'années que, plus de 15 ans que je vis hors de France. Et bon, on finit par, à l'âge venant aussi un petit peu, pardonnez-moi d'y insister lourdement. La France commence à me manquer un petit peu, l'Alsace me manque, figurez-vous, et ma langue maternelle alsacienne, que je peux parler avec personne à Rome, ou presque, j'ai trouvé un vieux confesseur en alsacien, donc ça quand même pas mal. À part ça, il n'y en a pas beaucoup, mais donc ça me manque un peu, mais c'est vraiment anecdotique, pardonnez-moi. Non, Rome est un grand bonheur, comme ville, à tout point de vue. Il y a évidemment ce patrimoine extraordinaire, le moindre petit palais au coin d'une rue à Rome, et il y en a des centaines, pour pas dire des milliers, serait la grande fierté de n'importe quelle ville dans le monde ailleurs, je veux dire, hein, enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est quand même vrai. Mais par-delà toutes ces splendeurs, ces musées, ces basiliques, ces palais, il y a la Rome vivante, quoi. C'est un bonheur incroyable de flâner dans Rome, parce qu'elle a un charme fou, cette ville. On y mange très très bien, ce qui n'est pas tout à fait accessoire pour moi, pardonnez-moi. Il y a un accueil, il y a une simplicité, il y a une chaleur. Non, franchement, je me lasse pas de ça. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont insupportables à Rome, mais elles pèsent surtout sur la vie, par exemple, de mes confrères ou des autres personnes qui ont des tâches un peu opérationnelles. C'est vrai que l'administration italienne et romaine en particulier, c'est vrai que les transports en commun, c'est vrai que les services des poubelles, toutes ces choses comme ça, c'est un peu foireux, hein, faut reconnaître. Bon. Mais moi, je ne suis pas trop gêné dans mon travail par ces choses-là. Je peux en pâtir comme ça, de manière tout à fait accessoire et secondaire. Donc, l'image que j'ai de Rome et que j'essaye de vous décrire là brièvement, même si c'est avec beaucoup de superlatifs, n'est pas trop affectée par ça. Il reste vraiment ce grand bonheur. Et évidemment, pour le catholique et le prêtre, le religieux que je suis, le fait que ce soit le centre de l'Église catholique dans son gouvernement mondial, c'est pas anodin. Quand vous allez à la messe avec l'évêque et le clergé d'un diocèse où vous vivez quelque part dans le monde, vous êtes quelques dizaines de prêtres. Hein. Quand vous êtes, par exemple, tous les ans avant Pâques, il y a ce qu'on appelle la grande messe chrismale, où l'évêque de chaque diocèse dans le monde bénit le Saint-Crème et les huiles qui servent pour les baptêmes, les confirmations, ces choses-là, les onctions des malades. Bon, donc il touille les choses dans des grandes urnes comme ça, avec de l'huile d'olive et quelques parfums, bon, très bien. Et c'est l'occasion où l'évêque s'entoure de tous ses prêtres sont invités à venir. Bon, ça fait quelques dizaines, maximum quelques centaines de gens. À Rome, quand on se retrouve à la messe chrismale, on est plus de 1000 prêtres autour de notre évêque, qui se trouve être le pape. Je dis pas ça pour faire le fier, mais ça crée quelque chose. Dans des célébrations à Saint-Pierre que j'aime beaucoup, non pas parce que c'est ébouriffant, non pas parce que c'est extraordinaire, etc. Elles sont très recueillies, elles sont très profondes, très belles aussi, bien sûr, hein. Elles sont animées par les chœurs de la chapelle Sixtine, excusez du peu. Bon. Mais donc c'est beau, mais c'est pas bling-bling, c'est pas écrasant, vous voyez. C'est comme la basilique Saint-Pierre elle-même. J'adore cette basilique, si je puis dire, parce que elle est immense, mais elle est admirablement équilibré, proportionné, et donc je dirais c'est presque comme notre foi, c'est du solide, mais c'est pas écrasant, et ça on ne s'y perd pas, parce que c'est harmonieux, parce que c'est équilibré, parce que c'est fait pour que l'homme s'y sente bien, pour se rapporter à Dieu. Et ça suffit pour mon bonheur.
Parfait, on termine par Dieu et le bonheur, c'est parfait. Merci Michel Kubler d'avoir été présent pour la seconde fois au micro du soir. J'en suis ravi et on rappelle que la semaine prochaine, mercredi prochain, vous serez, on peut vous écouter donc au Centre œcuménique Saint-Pierre-Saint-André de Bucarest. À partir de quelle heure? C'est à quelle heure mercredi prochain? Pardon?
19h.
À 19h, à partir de 19h. Merci infiniment Michel Kubler.
Merci à vous, Laurent.
Merci. À bientôt. À bientôt. Chers auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un beau week-end en paix et en sérénité. À bientôt. Au revoir.